n'a jamais voulu avoir le dernier mot, ni en littérature, ni en politique. Amos Oz, né en 1939 en Palestine, a disparu la semaine dernière, laissant une œuvre considérable, tant en fiction qu'en poésie. D'abord, ses yeux, très bleus, puis sa douceur, presque une fragilité assumée. Dans son livre, intitulé « Une histoire d'amour et de ténèbres », il se livrait à une autobiographie collective de son peuple, à travers l'image centrale de sa mère, qui s'est suicidée quand il avait 12 ans. Oz ne s'appelait pas Oz, mais Klausner. Il a choisi ce nom, qui signifie « force » en hébreu, quand il a changé de vie, quand il a décidé d'aller vivre en kibboutz. Son dernier livre s'intitule « Cher fanatique ». Celui qui se dit, de par son enfance, expert en fanatisme comparé, revient sur les raisons de la résurgence de ce fanatisme qui enflamme le monde aujourd'hui et nous appelle à penser autrement. Nous allons écouter Amos Oz, que j'ai eu la chance de rencontrer le 23 septembre 2016. C'était à l'occasion de la publication de son dernier livre, intitulé « Judas ». Ce soir, nous avons la chance de recevoir Amos Oz pour son dernier livre « Judas » et pour l'accueillir, une variation Goldberg de Bach avec Of Course Glenn Gould remasterisé. Amos Oz, vous êtes écrivain, vous avez publié une trentaine de livres dans des registres très différents. Il y a l'œuvre poétique, il y a l'œuvre autobiographique, il y a l'œuvre romanesque. Votre dernier livre vient d'être traduit en français. Il s'intitule tout simplement « Judas » et il est question effectivement du Judas, de ce Judas dont le nom a perduré dans l'histoire de la civilisation occidentale. Mais avant de revenir sur cette histoire qui est à la fois politique, intellectuelle et spirituelle dans ce dernier ouvrage, j'aimerais beaucoup qu'on parle de votre enfance et de cet âge où, à 5 ans, votre père, qui était bibliothécaire, vous a donné une toute petite place dans sa propre bibliothèque, dans la toute petite maison où vous habitiez. Ça a été un moment très important, je crois.
Mon amour pour les livres a commencé à un âge très jeune. Parce que moi-même, j'ai grandi dans une petite cave, en quelque sorte, pas beaucoup plus grande que cette table. Mais il y avait énormément de livres. Il y avait des livres en 17 langues. Mon père parlait 11 langues. Bien sûr, chacune avec un fort accent russe. Et moi, lorsque j'avais 4-5 ans, j'étais petit, très mince, pas sportif pour un sou.
Pas beau.
La seule manière pour moi d'impressionner les filles, c'était d'inventer des histoires et les leur raconter. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être écrivain. Peut-être encore aujourd'hui, j'écris pour les mêmes raisons.
Ça veut dire quoi, écrire? Ça veut dire restituer la mémoire du passé ô combien tourmenté de votre propre pays, Israël, ou ça veut dire essayer d'élucider ses propres tourments?
Le sapere, c'est
je pense que le besoin de raconter une histoire est tout à fait élémentaire. Tout un chacun veut raconter. Et tout un chacun veut qu'on lui raconte. Lorsque nous avions déjà 2 ans, on voulait qu'on nous raconte des histoires avant de s'endormir. Le besoin de raconter ressemble un petit peu au besoin sexuel, au besoin de rêve. Impossible d'expliquer cela par autre chose, c'est un besoin. Moi, j'aime beaucoup raconter. Et j'aime beaucoup qu'on me raconte également.
Vous vous racontiez des histoires à vous-même quand vous étiez petit, Amos Oz?
Mais évidemment, je fais encore ça aujourd'hui. Toute ma vie, toutes les fantaisies, ce sont des histoires que je me raconte à moi-même. Lorsque je dois, par exemple, attendre avant d'avoir mon rendez-vous chez le dentiste, ou plutôt dans la salle d'attente du dentiste, ou encore dans un aéroport ou dans une salle d'attente d'une gare, je ne lis jamais un tabloïd. Je regarde les gens et j'invente des histoires. Voilà ce que je fais. J'aime écouter des bribes de conversation des autres. J'aime beaucoup observer le langage corporel. J'aime également regarder les chaussures des gens. Les chaussures me racontent toujours une histoire.
Tu as
beaucoup de chance que cette table ne me permet pas de voir tes chaussures. Sinon, je saurais énormément de choses sur toi.
Je vais enlever ma chaussure. Hein. La voilà.
Voilà, je vois tout. Mais lorsque l'on enlève des chaussures, c'est tout à fait différent que lorsqu'on se les met. C'est plus la même chaussure.
Un
maître sans habit, c'est pas la même chose qu'un habit sans personne dedans. Moi, je regarde et je raconte. Je vais te dire la vérité. Je suis un espion. Toute ma vie, j'espionne des gens complètement étrangers, mais également des gens qui me sont proches. Je regarde, j'entends, j'écoute et j'invente des histoires. Par exemple, la femme qui est assise là-bas sur un banc, tout au bout de la gare. Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cet homme-là, qui a donné des coups à son enfant, pourquoi il lui a donné des coups?
Ou
encore, ce voyageur qui vient de s'endormir, là, à quoi rêve-t-il?
C'est ma vie.
Voilà, c'est ma vie.
Vous êtes né en 1939 à Jérusalem, donc pas encore Israël, bien avant la naissance de l'État d'Israël. Et d'ailleurs, dans ce dernier livre qui est publié ces jours-ci, il est beaucoup question des conditions de la naissance de l'État d'Israël. Mais de cette enfance que vous avez vécue et de cette période de la naissance de l'État d'Israël et de cette ville ô combien particulière, Jérusalem, avant ce livre, Judas, il y avait eu aussi un autre livre, lui aussi très bouleversant, qui s'intitulait « Les deux morts de ma grand-mère ». Et là, vous faisiez, exactement comme dans Judas, vous faisiez des déclarations d'amour-haine pour cette ville. Vous ne l'avez pas choisi, vous êtes né là-bas, vos parents ont décidé d'émigrer de Pologne pour arriver en Israël parce que, vous l'avez souvent écrit à Amos Oz, il régnait un tel antisémitisme en Pologne qu'il n'était plus question de pouvoir continuer à vivre en Europe. Mais vous, vous êtes le fils de ces parents qui ont choisi d'aller vivre en Palestine. Cette ville, vous l'aimez, vous la détestez, vous en avez peur?
Oui, oui, et oui. Tout ça à la fois.
Yerushalayim hi hamakom
sheli. Jérusalem, c'est mon lieu. En même temps, c'est un endroit très étranger pour moi. Elle m'attire et je m'enfuis.
Ça arrive
également entre des couples, pas uniquement entre un homme et sa ville. Si vous me posez la question, est-ce que mes parents ont choisi pour moi?
La réponse
est non, moi je choisis tous les jours de nouveau. Je choisis que je veux être juif. Je choisis que je veux vivre en Israël. Il y a une seule chose que je ne peux pas choisir et dont je ne peux pas décider. Ma langue, c'est l'hébreu. Je rêve en hébreu. Je fais l'amour en hébreu.
Et
j'aime beaucoup parler et lire l'hébreu. Le lien entre moi-même et l'État, il y a des hauts et des bas. Le lien que j'ai avec Jérusalem, là, il y a de l'amour et de la haine. Mon lien avec la langue hébraïque, c'est un petit peu comme le violoniste avec son violon.
Seriez-vous le grand écrivain reconnu dans le monde entier, Amos Oz, si vous n'aviez pas lu, dans votre jeunesse, un homme, un écrivain qui a obtenu le prix Nobel, mais qui aujourd'hui, hélas, est beaucoup trop méconnu, qui s'appelait Samuel Agnon. Nous allons l'écouter. C'est une archive INA de 1967. Samuel Agnon va évoquer la traduction.
Je pense que toute chose où il y a de la vie peut être traduite. Luther a traduit la Bible et Faust a traduit Homère en allemand. On peut tout traduire. Tant que le monde entier ne parle pas l'hébreu, il nous faut nous contenter de traductions. Il y aura d'abord de mauvais traducteurs, puis viendront les bons traducteurs.
Que vous a appris Agnon ?
Ironia, scepticisme, vegam.
Il m'a appris à la fois l'ironie, le scepticisme et il m'a également appris que
יש יותר מאשר צל אחד.
Chaque être humain a plus qu'une seule ombre. Il m'a également appris que la langue, c'est comme la musique. Et la littérature. La littérature n'est pas proche de la philosophie. Elle est beaucoup plus proche de la musique.
Pourquoi ?
Parce que pour des idées, on n'a pas besoin de la forme romanesque, on peut se contenter de pamphlets. Je ne crois pas qu'on écrive un roman pour faire passer des idées. Si on fait cela, c'est un manifeste, ce n'est plus un roman.
Et
dans ce livre-là, je parle de gens qui ont des idées.
Mais
je ne parle pas des idées que, dont j'habille mes personnages.
Je ne cherche
pas un personnage qui exprimerait pour moi une idée. Un homme, une femme, un autre homme.
Et
à fur et à mesure que je les connais mieux, à ce moment-là, je montre également et je découvre également leurs idées. Et les idées font partie d'eux.
Jamais
dans la vie, j'ai aimé une femme parce qu'elle avait de belles idées. Je n'aime pas mes enfants parce qu'ils ont telle ou telle idée. J'aime les idées.
Mais
j'aime les idées comme on peut aimer un habit et pas comme on aime un corps.
Et pourtant, Amos Oz, on vous lit depuis longtemps et puis évidemment, on avait lu tous avec passion que j'ai relu d'ailleurs cet admirable livre autobiographique qui s'intitulait « Une histoire d'amour et de ténèbres ». On vous lit pour votre force d'écriture, votre matière d'écriture. On reviendra sur l'intensité de votre poésie aussi en prose. Mais on vous lit parce qu'il y a des idées aussi, parce qu'il y a de l'espoir dans ce que vous écrivez. Et dans ce dernier livre, Judas, vous mettez en scène justement des hommes qui croient à des idées, mais qui y croient tellement qu'ils seraient capables de donner leur vie. Et d'ailleurs, ils vont, certains d'entre eux vont donner leur vie pour des idées. Et ces idées, ce sont lesquelles ? Eh bien, ce sont justement des espoirs de paix entre le peuple arabe et le futur peuple israélien au moment de la naissance de l'État d'Israël. Mais chez vous, Amos Oz, jamais de manichéisme. C'est peut-être pour cela qu'on vous lit avec tellement de passion. Vous nous faites tanguer à l'intérieur de la psychologie de vos personnages. Ils croient à des idées, mais ils sont pas sûrs que leurs idées soient viables véritablement. Pourquoi ?
Merci beaucoup, Laure. Vous lisez très bien.
Comme tout le monde.
Un peu mieux. Il y a beaucoup de gens
qui lisent
un livre et qui essayent d'en trouver un message à la fin. Il y a des gens qui lisent un roman et qui essayent d'y trouver une thèse. C'est pas qu'il n'y a pas de thèse.
Mais c'est
dommage de lire tout un roman pour en arriver à une thèse.
Parfois,
c'est comme quelqu'un, un amant, qui déshabille la femme qu'il aime, qui lui enlève des vêtements et encore des vêtements. Et puis, finalement, il essaye également de lui enlever la peau. Et puis après, la viande, enfin la chair. Et une fois qu'il arrive au squelette,
Omer, voilà, c'est là.
Il dit voilà.
Aval,
c'est ça.
Mais
je ne crois pas qu'il faille lire un roman comme ça, et je suis très heureuse de voir que vous ne le lisez pas comme ça. Les gens du livre de ce roman ont plusieurs, toutes sortes d'idéaux. Et les idéaux ne sont pas les mêmes. Mon lecteur est invité à les écouter tous. Et même de les suivre. Et parfois, il peut aussi ne pas être d'accord, mais il peut également sourire de temps en temps.
Nous allons écouter un document historique qui figure dans votre dernier ouvrage, Amos Oz. C'est le vote de la partition de la Palestine par l'ONU. Vos personnages, dans ce dernier roman intitulé Judas, écoutent avec passion à la radio ce moment historique qui va faire basculer non seulement l'histoire de ce Moyen-Orient, mais l'histoire tout court, l'histoire du monde. Nous écoutons donc cette archive du 29 novembre 1947.
You all know how to vote. Those who are in favor will say yes, those who are against will say no. And the abstainers, always they know what to say.
We will start it now.
Afghanistan? No. Argentina? Argentina? Abstention? Australia? Yes. Belgium? Yes. Bolivia? Yes. Brazil? Yes. Belarus? Yes. Egypt? No. El Salvador? Abstention? Ethiopia? Abstain? France?
Thank you.
vient d'entendre le contrebassiste Avishai Cohen avec ce morceau « Eleven Wives », précédé donc de ce document historique qui restituait la partition de la Palestine, d'où est né donc cet État d'Israël, avec cette angoisse qui a précédé ce vote où chacun des pays s'exprimait pour dire oui ou non à l'existence de l'État d'Israël. Et l'URSS avait voté oui, ce qui a été déterminant, rappelez-vous Amos Oz, vous le rappelez dans votre dernier livre, Judas. Ensuite, il y a eu la guerre, en 48. Cette guerre, évidemment, vous en parlez aussi dans ce livre Judas. Et cette guerre, vous l'avez vécue, vous étiez très jeune, mais je crois que vous vous en souvenez, et qu'à travers les fantômes de ces personnages que vous avez inventés pour ce dernier roman, Judas, je pense que vous avez beaucoup été chercher dans votre mémoire ces souvenirs effrayants de cette guerre de 48.
Tout à fait.
Cette nuit où on a décidé aux Nations Unies de partager, de faire le partage, c'est une nuit, une soirée que je n'oublierai jamais. Je n'oublierai jamais non plus, pendant mon enfance, lorsque les Arabes ont fait un siège de Jérusalem. C'est-à-dire, on ne pouvait pas, on n'avait pas à manger, on n'avait pas d'eau. Et on nous a bombardés jour et nuit. Évidemment que je reviens à cela. Et parfois également dans mes rêves.
Évidemment,
c'est une année qui a changé ma vie. Si on n'avait pas donné le droit à l'autodétermination aux Juifs dans une partie du pays, où est-ce qu'on serait allé? À ce jour, je ne le sais pas, jusqu'aujourd'hui. Lorsque mes parents sont arrivés dans les années 30 à Jérusalem, il n'y avait pas un seul pays au monde qui était d'accord pour recevoir des Juifs. J'y pense beaucoup aujourd'hui, de nos jours, alors que l'on voit les réfugiés venir en Europe. Ma propre famille, les États-Unis ont dit non, la France a dit non. Ils ont même essayé l'Allemagne, mais même l'Allemagne a dit non, un peu avant Hitler. Ils sont arrivés à Jérusalem parce que personne d'autre n'en voulait. C'est pas facile d'oublier cela. Certains l'oublient, mais on n'a pas le droit de l'oublier.
Je crois
que cette décision des Nations Unies de partage en deux pays, la Palestine et Israël, c'était en fait, au fond, une décision tout à fait morale et juste.
En même temps, Amos Oz, vous êtes reconnu en Europe, et y compris évidemment dans votre propre pays, comme étant un apôtre de la paix, un militant de la paix. Vous avez été l'un des fondateurs les plus importants de ce mouvement qui s'intitule « La paix maintenant ». Vous avez écrit un livre fondamental qu'il est urgent de relire en ces moments justement d'intolérance et de renouveau du racisme dans notre Europe, qui s'intitule « Aidez-nous à divorcer ». Divorcer, c'était le divorce entre les peuples, le peuple arabe et le peuple juif. Et en même temps, dans ce dernier livre, Judas, vous mettez en scène donc trois personnes. Un jeune homme qui est un étudiant, qui est un peu rêveur et qui fait des études pour savoir qui était vraiment le Judas. Est-ce qu'il était vraiment juif? Qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il a trahi Jésus? Est-ce qu'il a tué Jésus? Etc. Judas, qui est quand même une des racines de l'antisémitisme dans le monde entier encore aujourd'hui. Et puis, il y a ce jeune homme, et puis il y a une jeune femme d'une quarantaine d'années, un peu mystérieuse. On comprendra tout au long de la lecture de ce livre qui elle est et pourquoi elle habite dans cette maison au fond d'une impasse à Jérusalem. Et puis, il y a un vieil homme de 70 ans à peu près, qui est revenu de tout et qui, lui, ne sait pas si finalement il ne fallait pas laisser la chance au monde arabe, au peuple arabe, à la population qui se trouvait sur le territoire de la Palestine. s'il n'avait pas finalement fallu considérer un avenir pour le peuple palestinien et pour le peuple qui allait devenir le peuple juif. Qu'en pensez-vous aujourd'hui ?
La réponse,
elle est effectivement, oui, mais le roman ne traite pas de l'avenir du peuple palestinien, ni d'ailleurs de l'avenir du peuple juif. Ce roman parle d'un vieil homme, d'une femme d'un âge moyen et d'un jeune idéaliste qui, au départ du roman, proviennent tous les trois de planètes complètement différentes, de mondes différents, avec des idées extrêmement différentes.
Et
même côté sentimental, où ils ne sont rien les uns pour les autres. Et puis à la fin, ils sont presque comme une famille. Presque comme un père, une mère et leur fils. Pour moi, c'est cela le noyau, le cœur de ce roman. Ce qu'ils ont à dire sur les Juifs, sur les Palestiniens, sur Jésus, sur la violence, sur la paix. J'espère que c'est très intéressant, je l'espère.
Mais
moi, personnellement, lorsque j'ai écrit ce roman, ce qui m'intéressait le plus, c'était de savoir comment trois personnes connaissent un tel changement pendant un hiver. Chacun d'entre eux change.
Et
ils ne changent pas uniquement. Ils se rapprochent également.
En même temps, ces trois personnes, donc de trois âges différents, l'un de 20 ans, étudiant complètement moche, cassé, qui sait même pas mettre un pied devant l'autre sans se casser la gueule, qui est vraiment vit au pays des nuages, des idées, etc. Une espèce de Woody Allen bis. En tout cas, c'est comme ça que je le figure quand je vous lis Amos Oz. Ensuite, il y a cette femme sublime d'une quarantaine d'années avec des robes moulantes qui sent bon la violette, qui a des cheveux ondulants, qui sème un trouble sexuel dans cette petite maison. Et puis, ça, il y a ce vieil homme de 70 ans qui ne peut pas bouger, qui est invalide. Et d'ailleurs, il a payé ce jeune étudiant pour venir lui faire la conversation. Mais qu'est-ce qu'ils font jour et nuit ? Ils ne font rien d'autre que de boire du thé, bouffer des petits biscuits, et parler. Est-ce qu'ils rêvent leur vie en oubliant de vivre ?
Lorsque j'ai écrit ce roman, je pensais que personne n'allait le lire. Un livre où il y a trois personnes qui boivent du thé et qui parlent, qui discutent. Où est le Mossad ? Où est la Shoah ? Où sont les Palestiniens ? Où y a-t-il les grands
globalisation ?
Où est la mondialisation ? Pour avoir un peu de sexe, il faut attendre la page 260 à peu près. Personne ne va lire. Mais finalement, ils font quelque chose, ces gens-là. Et tout le temps. Il se rapproche. Par exemple, le jeune homme, Shmuel. Au moment même où Atalia rentre dans la pièce, elle a deux fois son âge. Elle pourrait pratiquement être sa mère.
Mais
lui, il est tout de suite allumé. Il est attiré physiquement, sexuellement, au point que ça lui en fait mal. Et voilà. Cette passion sexuelle, elle ne s'éteint pas au fur et à mesure que l'histoire avance, mais elle se transforme en un amour différent, compassionnel, empathique. Et il n'y a plus cet amour qu'il y avait au début. Et pourtant, la passion est encore là. Elle ne s'est pas éteinte. Alors, je ne sais pas exactement où ça se passe dans le livre. Moi-même, j'ai lu le livre à plusieurs reprises. Je ne sais toujours pas quand la passion se transforme en amour. Si vous me trouvez ce passage, appelez-moi. Et dites-le-moi. Même en plein milieu de la nuit, vous pouvez m'appeler si vous trouvez le moment.
בין האדם הזקן והבחור הצעיר.
Il se passe exactement la même chose entre le vieil homme et le jeune homme.
הזקן לא מאמין בשום דת ובשום אידאל.
Ce vieux ne croit en aucune religion, il ne croit en aucun idéal.
כל הדתות וכל האידיאולוגיות לפי דעתו.
Toutes les religions et toutes les idéologies sont d'après lui.
Inquisition, Goulag.
Voilà, il y a le Goulag, il y a l'Inquisition. Les croisades, enfin il y a toutes ces œuvres déjà.
Et il dit,
arrêtez avec tout ça, arrêtez de vouloir réparer ou améliorer le monde.
Avec les idéologies.
Et le jeune, lui, il veut tout de suite améliorer le monde. Et il y a d'ailleurs Castro et Che Guevara sur des affiches dans sa propre chambre.
כל כך רחוקים.
Ah, ils sont très éloignés l'un de l'autre.
ובסוף הספר הם כל כך קרובים.
Et à la fin du livre, ils sont très proches.
מתי זה קורה? אני לא יודע.
Quand est-ce que ça se passe? Je n'en sais rien.
קראתי את הספר 5 פעמים.
J'ai lu le livre 5 fois.
ואני לא מבין איך בסוף הספר.
Et je ne comprends pas comment il se fait qu'à la fin du livre, ce vieil homme amer
נותן לצעיר הילדותי הזה נשיקה על המצח.
Donne à ce jeune un baiser sur le front.
מתי בפעם האחרונה הוא נתן נשיקה למישהו?
Quand est-ce qu'il a donné un baiser pour la dernière fois de sa vie?
זה מה שקורה.
Voilà, c'est ça ce qui se passe dans le livre.
האידאות זה חשוב מאוד, אבל זה מה שקורה.
Les idées, c'est très important, mais c'est cela qui se passe.
בשבילי זה כמעט נס
חילוני. Pour moi, c'est presque un miracle qui n'a rien de religieux.
Alors, on ne va pas raconter les scènes de sexe qui sont dans Judas. Les auditeurs et les auditrices les découvriront par eux-mêmes. En tout cas, c'est sauvage. Mais on va écouter un jeune groupe de trois sœurs israéliennes que vous connaissez sûrement, Amos Oz. Elles s'appellent Awa. Vous les connaissez. On les écoute. Vous écoutez L'Heure Bleue, nous sommes avec Amos Oz jusqu'à 21h. Demandons chaque jour un point de vue à un auteur, à quelqu'un qui est intéressé par l'œuvre de notre invité. Nous avons choisi de demander à Elias Sambar. Elias Sambar, qui est l'ancien directeur de la revue d'études palestiniennes, qui a beaucoup œuvré justement pour le rapprochement entre le peuple palestinien et le peuple hébreu. Je crois que vous avez travaillé ensemble au moment du mouvement La Paix Maintenant, qui est actuellement ambassadeur de Palestine auprès de l'UNESCO et auteur de nombreux livres, dont un récent dictionnaire amoureux de la Palestine. De parler de vous, Amos Oz, écoutez.
Sur le plan littéraire, Amos Oz est incontestablement un des grands écrivains d'Israël. C'est un grand romancier et je crois que cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Sur le plan politique, c'est un personnage assez contradictoire, assez paradoxal, dans la mesure où il a été, depuis quelques années, un des porte-parole un peu de ce qu'on appelle le camp de la paix en Israël, qu'il a en permanence appelé à ce qu'il appelait lui le divorce. Donc un État pour les Palestiniens, un État d'Israël. Mais le gros problème, et c'est pour cela que j'ai dit que c'était paradoxal, c'est qu'il demande un peu l'État pour les Palestiniens précisément pour qu'il n'y ait pas de mélange dans l'État juif. Donc il y a une idée un peu ghettoïsée, à mon avis, dans son approche de la paix. Cela dit, nous sommes preneurs de tous les appels pour et un peu la formule des deux États et de deux États en voisinage. Aujourd'hui, le pessimisme est de mise, et je dirais l'inquiétude est de mise. Il est certain cependant qu'il le souhaite, il est certainement qu'il continuera à appeler un peu à cet avenir de voisins, en fait, qui n'est pas un avenir commun. Et pourquoi pas, ça peut être une première phase avant de passer à autre chose. Mais il y a un livre qui est fondamental, à mon avis, dans l'œuvre de Oz. C'est celui qui est intitulé « Une histoire d'amour et de ténèbres », dans laquelle il raconte un peu toute sa vie. Mais ce qui est très très clair dans ce livre, et que moi qui m'a beaucoup appris, car cette société que j'ai beaucoup étudiée, que j'ai beaucoup abordée, avec laquelle j'ai beaucoup dialogué, mais finalement que je ne connais pas vraiment, parce qu'il y a eu un enfermement, il y a eu deux mondes clos l'un vis-à-vis de l'autre, et le mien n'était pas en contact réel avec l'autre société, l'israélienne, et vice-versa. Et ce que je veux dire, ce roman m'a montré à quel point l'enfermement était une sorte de donnée constitutive de la société israélienne, l'enfermement sur soi. Et c'est pour cela que je crois que c'est un livre extrêmement émouvant, et surtout qu'il y a quelque chose qui relève du tragique dans ce récit d'une vie qui est la sienne, celle de sa famille, celle de ses parents. Cela dit, je ne crois pas que le mouvement de paix soit complètement mort, mais je crois qu'il y a une profonde déception et qu'il y a surtout une énorme lassitude. Et donc, une grande partie de la société israélienne laisse faire l'actuel gouvernement. C'est le fait que ce conflit a trop duré, que la paix, les négociations ont trop duré, 25 ans déjà, un quart de siècle de négociations sans résultat, et que beaucoup de personnes, même si elles continuent à souhaiter d'avoir la paix, démissionnent et baissent un peu les bras en disant que des gens comme Netanyahou, Lieberman et autres s'en occupent.
Alors, ce que vient de dire tout de suite là, Elias Sambar, est en écho direct avec les problématiques que vous soulevez dans votre roman, et ce sous forme de la fiction, Amos Oz, car vous êtes aussi un maître de l'autobiographie et en quelque sorte aussi de la rhétorique politique et du documentaire. Mais là, ce dernier livre, c'est de la fiction. C'est de la fiction qui rejoint quand même de la réalité, puisque vous nous faites assister, nous lecteurs, à des interrogations fondamentales sur les conditions de la naissance de l'État d'Israël. Et aujourd'hui, en 2016, on peut se demander si vraiment ces conditions de l'existence de la naissance de l'État d'Israël ont été véritablement approfondies, mesurer. Vous avez dit tout à l'heure, Amos Oz, que c'était la seule solution pour répondre aux pogroms et à l'antisémitisme qui sévissait partout en Europe. Mais il y avait des Juifs qui avaient rejoint le territoire de Palestine et qui disaient que le gros problème, ça serait la coexistence avec les pays arabes. Et je vais vous citer un très court paragraphe dans votre dernier ouvrage, Judas, qui est en train de sortir en ce moment même. Vous expliquez, ça c'est une thèse qu'on n'a pas souvent entendue, je trouve, de la part ni des Palestiniens ni des Israéliens. Voici ce que vous écrivez à propos d'un de vos personnages. « Après de longues années de discussions avec ses amis en Palestine et dans les pays voisins, il était parvenu à la conclusion que la principale préoccupation des Arabes tournait autour de la supériorité des Juifs en matière de compétences, de technologie, d'ingéniosité et de motivation, grâce à quoi il finirait par envahir et contrôler les territoires arabes. D'après lui, il redoutait moins le petit embryon sioniste que le géant destructeur qu'il contenait en germe. » Voici ce que vous écrivez dans ce bouquin Judas qui vient de sortir en ce moment. L'action se passe en 48, nous sommes en 2016. Est-ce que la situation n'est pas identique aujourd'hui ?
Tout d'abord, je crois qu'il faut vraiment faire des distinctions. Ce que vous venez de lire, c'est l'une des quatre ou cinq voix différentes qu'il y a dans ce livre. J'espère que cette voix est convaincante.
Mais
j'espère également que les voix qui disent exactement le contraire soient également convaincantes. Si quelqu'un veut savoir où moi je me situe, eh bien, mettez le roman de côté. J'ai écrit environ 1000 articles politiques dans ma vie. J'ai écrit des livres sur la politique. J'ai donné des milliers d'interviews.
Et moi,
je crois vraiment qu'il faut un compromis entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est là où je me situe. Les Palestiniens ne vont nulle part. Ils n'ont nulle part où aller.
Et
les Juifs israéliens ne vont nulle part.
Il y a des
gens qui se demandent, alors pourquoi ils ne se mettent pas au lit ensemble pour faire l'amour?
Et
la réponse est simple, après 100 ans de haine,
ce n'est
pas forcément une bonne idée de sauter dans le lit et de faire l'amour. J'ai une réputation d'extrémiste chez certains, dans pas mal d'endroits d'ailleurs. Et je suis attaqué par des radicaux de tous côtés. Mais moi-même, je suis ce que j'appellerais un évolutionniste. Je crois au compromis. Entre des parents et leurs enfants, entre un homme et une femme dans un couple. Et pourtant, le concept, l'idée même de compromis n'est pas très populaire. Les jeunes idéalistes pensent que c'est de l'opportunisme, le compromis.
Et
ils pensent que le compromis, c'est quelque chose qui n'est pas entier, qui n'est pas droit.
Pour moi,
compromis, c'est un synonyme du mot vie.
Il
se peut que les Israéliens et les Palestiniens feront partie tous ensemble d'une grande famille heureuse.
En Europe, il a fallu
à peu près 1000 ans et ce n'est pas encore tout à fait fait. Qu'est-ce que les gens veulent? Les gens veulent que les Juifs et les Palestiniens, après 100 ans de suspicion, de violence, s'embrassent les uns les autres et commencent tout de suite leur lune de miel. Tout d'abord, deux États, après une économie qui sera imbriquée, peut-être une fédération dans un stade ultérieur, un marché, une ouverture du marché, mais de la patience, peu à peu. Si en 1945,
quelqu'un
avait proposé de faire un seul peuple du peuple polonais et du peuple allemand en
1945,
on l'aurait tout de suite mis en asile psychiatrique. Donnez un peu de temps aux Israéliens et aux Palestiniens. On va certainement être plus rapide que les Européens.
Et
quand je dis « nous », je dis « juifs et arabes ».
Ça va
arriver plus vite chez nous que c'est arrivé en Europe. Avec moins de sang. Il y a déjà eu beaucoup trop d'effusions de sang. Mais moins que l'effusion de sang qui a eu lieu en Europe.
Nous écoutons la voix de Mahmoud Darwish qui va réciter son poème « Rien que la lumière », un très grand poète qui était aussi un de vos amis, une archive du 7 octobre 2007.
« La shay'a illa d'aw, lam uqif hisani, illa li aqtufa wardatan hamra. » من بستان كنعانية أغوت حصاني وتحصنت في الضوء لا تدخل ولا تخرج فلم أدخل ولم أخرج وقالت هل تراني فهمست ينقصني لأعرف أنني فارق بين المسافر والطريق، وفارق بين المغني والأغاني. جلست أريحة مثل حرف من حروف الأبجدية في اسمها، وكبوت في اسمها.
Mon cher ami, je ne crois pas en l'amour universel. L'amour est limité par nature. On peut aimer 5 personnes, peut-être 10, très rarement 15. Mais ne venez pas me dire que vous aimez le tiers-monde tout entier ou l'Amérique latine ou le beau sexe. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la rhétorique, des paroles en l'air, des slogans. Nous ne sommes pas nés pour aimer plus qu'un petit nombre d'êtres humains. C'est ce que dit l'un de vos personnages, le vieux monsieur, à l'intérieur de ce roman qui vient de sortir, Amos Oz, car ce roman, Judas, c'est un grand roman sur l'amour, sur les plaisirs de l'amour, sur les mystères de l'amour, sur l'initiation amoureuse qui vous fait changer la sensation de la vie, non ?
Kenza, c'est pour l'ahava.
Oui, c'est un livre sur l'amour.
Ça, c'est pour le dédoute.
C'est un livre sur la solitude. Mais ce n'est certainement pas un livre sur l'amour universel. Ni moi, ni mes personnages. Tout le monde peut aimer tout le monde. C'est clair, dans les années 60, on nous a dit de faire l'amour et non la guerre. Mais le contraire de la guerre,
c'est shalom et pshara.
Ce n'est pas l'amour, c'est la paix et le compromis. Je ne cherche pas l'amour chez les Palestiniens. Je ne cherche pas l'amour seulement chez mes proches. Ça ne vaut pas la peine de chercher l'amour chez des étrangers. En général, ça ne se finit pas bien. Les liens avec les personnes étrangères nécessitent bien sûr le respect mutuel, de la justice, penser à l'autre et parfois également de la compassion. L'amour, c'est bien de le réserver aux proches. C'est quelque chose de très intime, ce n'est pas quelque chose d'international. Mais il y a des gens qui pensent autrement. Alors bien sûr, je les respecte tout à fait.
Eh bien, nous aimons votre livre, Judas. Merci beaucoup, Amos Oz. Un livre qui s'intitule Judas, et on n'a même pas parlé de Judas, qui est aussi un des thèmes du livre. Un livre merveilleusement traduit, comme tous les autres, de l'hébreu par Sylvie Cohen et qui vient de paraître chez Gallimard. Et merci aussi infiniment à Margit Lipsker qui a assuré cette traduction simultanée avec beaucoup de grâce et peut-être d'amour.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.
I used to know this nigga Sonic, who was ironically dark. Never consumed by the money, but said and drove in the park. Became a main habit of kids, bagging the piff. Cornucopias quoting a man who was blagging a myth. It wasn't simple, simpler than previous. Maturity was lacking and he was never mischievous. Devious was closer, only relevant if leaving us. He was too afraid, so we stayed forced to believe in trust. Honesty was the commodity he'd never possessed. Nevertheless, manipulate a woman, beating his chest. Reaping the stress, seeking a breast, wreaking a cess. Hear the pitter-patter, missing the ladder, weeping to death. But a shoulder to cry on, no one left to rely on. He was followed by some men in black like the belt of a Rigon. In the report, said he was caught dead in a snort and was shredded. He never even embedded a thought. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle. cigars and shards of glass or heart if they metal. So let me start from the beginning, up at the middle was simple. Cutest to the children, always displaying a dimple. Never talking out of line or defined as he thought divine. But an awkward spine left him 7-0 single. Proud in the corridors, and wrong in yours. While the janitor was mopping floors, he was dropping whores on all fours. Left them begging for a reason. Treason left him cold, never froze for an evening. But the body heat never seemed to keep his body sweet. On another meet, looking for another blunt to beat. Now the streets became his mistress, turning his witness. Cause when a wig spits, you don't know we'll be holding hit list. Switch shift, he's stumbling on the warpath. Whores bark, meditating up in the raw dark. For more dark, he's knowing that's when the war starts. Cutting more lines than disabled kids up at 4 Park. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle. So I said the life that you're living don't seem to be making sense. Shaking pence out the cookie jar, looking hook on a Benz. Losing friends, rookie he spends all of his tens on a little bit of leaf that will leave him stuck in the ends. He started to shot, losing the plot, itching his scrot. Little street corner located, dropping his crop. Others would watch, cover the block under the spot. Till he found himself surrounded by brothers robbing his wop. Didn't seem to be the average type, caught a badge in sight. Coppers turning foxes and it just wasn't the rabbit's night. He was alone for just a couple of minutes, scrolling through his phone trying to bell a couple of digits, but nobody would answer. Chancellor took his last chance at a glance in a drug deal stance. And now we dance with the devil in the park by the treble. Stars and shards of glass will harm if they meddle. Stars and shards of glass will harm if they meddle.